Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous, bienvenue sur la côte normande au bord de la Manche qui nous sépare et qui nous rapproche de l'Angleterre. Nous sommes à Deauville car cette station balnéaire, UP, accueille le premier festival du documentaire sportif. Des documentaires qui évoquent tous les sports, tennis, voile, rugby et bien sûr le football, avec plusieurs documentaires à évoquer, et ceci grâce à nos invités. Alors le premier, vous le connaissez bien sur RFI et dans Radio Foot International. Bonjour Philippe Doucet.
Bonjour Madame Annie.
Alors là, vous avez mis un autre costume aujourd'hui.
Oui, même la cravate en général.
Et vous êtes le responsable de la programmation de ce festival qui se déroule donc à Deauville, avec combien de documentaires au total?
38 au total, 38. Enfin plus de...
Il y a différents formats.
Différents formats bien sûr, des longs, des courts, des webs, des séries doc, enfin ça représente absolument tout le cheptel des documentaires que génère le sport désormais, c'est-à-dire beaucoup.
Et on va y venir à la définition de ce documentaire sportif. Autre invité, il est le président du jury et connu, très connu pour son documentaire à l'époque révolutionnaire et qui a fait école Les yeux dans les bleus. Bonjour Stéphane Meunier.
Bonjour.
J'ai les yeux dans vos yeux bleus, donc c'est ça qui doit être troublant. Bonjour et bienvenue.
Oui, c'est trop blanc.
C'est une foot ou pas?
C'est une émission radio, mais il faut décrire parfois, aider. Il y a un autre documentaire que nous avons choisi et qui fait écho à ce qui s'est passé il y a si peu, lorsqu'RFI était déployé pour la CAN, la Côte d'Ivoire championne d'Afrique en 2024. Il a suivi leur chemin, on ne peut plus, tortueux, et on va y revenir. Bonjour, alors Thomas Diego Badia, mais qu'on dit Diego tout simplement.
Bonjour Annie, merci pour votre invitation.
C'est un beau prénom dans le monde du football en plus, Diego.
Ça porte chance parfois. Ouais,
même si vous avez un maillot de la Côte d'Ivoire.
Forcément.
Les éléphants. À vos côtés, eh bien, alors, quelqu'un qui là s'est intéressé à d'autres champions, champions du monde, grâce au documentaire qui s'appelle Nuestra Alma. Sur l'Argentine à la Coupe du Monde et sur les Argentins surtout durant la Coupe du Monde. Bonjour David Comeroc.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Alors vous êtes réalisateur, vous avez produit ce documentaire qu'on peut voir ici et qu'on verra j'espère bientôt ailleurs, et nous en parlerons. Et puis il y a aussi Philippe Breteau qui vient de nous rejoindre. Bonjour Philippe.
Bonjour à vous, merci de nous accueillir.
Alors vous êtes formateur à l'INF, hein, à l'Institut National du Football, et vous formez les athlètes de demain.
Oui, on essaye de former quelques internationaux, comme on a vu à la Coupe du Monde. Et c'est intéressant pour nous de venir ici et d'être accueillis, non seulement parce qu'on forme des internationaux, mais aussi parce que le film, il nous met en valeur sur des valeurs éducatives et sociales. Et c'est ce qui nous intéressait de venir.
Oui, vous, il y a le documentaire Apprendre à être, hein, qui s'occupe de former des athlètes, mais aussi des hommes, comme vous le dites dans le documentaire. Radio Foot à Deauville, c'est parti. Deauville, à 200 km au nord-ouest de Paris, donc connu pour le cinéma, son festival du film américain, la fameuse scène aussi filmée par Claude Lelouch il y a longtemps dans Un homme et une femme, le fameux Shabadabada, exactement Philippe. Et aussi pour son historique hôtel Normandie où nous sommes accueillis, pour ses cabines de bain, pour ses planches aussi où se promènent parfois des stars, et désormais, qui sait, pour son festival du film du documentaire sportif. Philippe Doucet, c'est pourquoi Deauville? Alors c'est certes une ville sportive, hein, on voit des chevaux, il y a aussi beaucoup de sports liés à la voile, tout simplement la voile, mais planche à voile, char à voile, du golf aussi. Et c'est une ville, nous a précisé le maire, qui attend 200 athlètes chinois qui seront ici en résidence, on va dire, pendant les prochains Jeux Olympiques. Est-ce que ce sont toutes ces raisons qui ont conduit à organiser le festival ici ?
Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est aussi né de rencontres, tout simplement. Parce que moi, j'ai un ami qui s'appelle Roland Giscard d'Estaing depuis une trentaine d'années. On s'est connus notamment en s'occupant d'une équipe brésilienne, Sampaolo, qui était au sommet à Tokyo en finale de la Coupe intercontinentale. Et récemment, il y a un an et demi, on a rencontré le maire de la ville qui nous a dit « Moi, j'ai besoin d'un événement qui met en valeur le sport à Deauville. On fait énormément de choses. » Et je trouve que Deauville n'est pas assez reconnu pour ça. Et du coup, l'idée d'être à Deauville est merveilleuse parce que c'est très près de Paris, c'est très pratique, c'est très prisé. Évidemment, on peut vous recevoir dans des conditions idéales avec le CID, qui est un objet magnifique, une salle magnifique, et un moyen avec plein de salles pour organiser des tables rondes et tout ce qui peuple aussi en dehors des...
Et des projections, bien sûr.
Des projections, en dehors des projections, ce qui peuple ce festival.
Alors, la question, et elle s'adresse à vous tous, puisque vous êtes concernés par le sujet, qu'est-ce qu'un documentaire sportif ? Philippe, vous qui en avez sélectionné, là, est-ce qu'il y en a certains qui sortaient du cadre ?
Alors oui, dans le sens où notre programmation, elle est à moitié sociétale. C'est-à-dire qu'on peut affirmer que dans Nuestra Alma, typiquement, on ne voit pas une image de ballon.
Je veux dire, ça coûte cher les images de ballon.
C'est l'Argentine championne du monde, mais vue d'Argentine, vue par le peuple argentin. Mais pour la vraie définition, je pense que Stéphane Muni, qui a fait beaucoup de documentaires tout court et de documentaires sportifs, peut nous dire mieux que quiconque la différence, s'il y en a une, justement.
Le réalisateur, le documentariste, que dit-il, Stéphane Muni ?
Alors, moi, je ne suis pas là pour établir des règles, mais plutôt des sentiments.
Oui,
en fait,
voilà.
Le sentiment, il est assez large et ouvert et accueillant. En fait, déjà, documentaire sportif, il faut que ça traite de sport. Il faut qu'il y ait une place pour le sport dans cette expression-là. Puis après, moi, je parle de manière large de cinéma, en fait. Le documentaire, c'est un film. C'est un format plutôt long. Mais il y a certains formats courts qui approchent aussi également d'une forme d'écriture documentaire. Donc en fait, ça, il y a quelque chose d'assez subjectif. C'est pour ça qu'il y a un comité de sélection qui choisit avec ses sentiments et sa subjectivité. Et puis après, il y a un jury qui est avec des cultures différentes. Il y a des sportifs de haut niveau, des ex-sportifs de haut niveau, des toujours en activité, des gens qui ont de grosses carrières, des médailles olympiques. Et puis il y a des réalisateurs, des producteurs, des gens qui sont plus spécifiquement du côté de la fabrication ou de la diffusion. Et tout ça drive un peu l'idée du documentaire. En fait, moi, j'ai envie de dire, le sport génère tout type de sentiments et est présent dans la société à plein d'étages. Il est dans la formation, il est dans la résilience, il est dans l'expression, il est dans
la passion aussi.
La passion, il est dans le supportering, il est dans énormément de choses. Donc il y a beaucoup de sujets à traiter et il y a moult manières de s'exprimer, en fait. Et on est assez souple pour aller chercher tout ça.
Justement, David et Diego, vous avez fait des documentaires qu'on pourrait dire sportifs et en même temps très différents parce que vous traitez. Alors, vous, est-ce que vous avez l'impression, par exemple, David Comerin qui a fait Nuestra Alma, dont on va parler après, mais est-ce que vous avez eu la sensation de faire un documentaire sportif ?
Oui, oui, oui. Parce que le mot, c'est le football.
Mmh.
Le football. Alors, le miroir, c'est y a les joueurs, mais il y a aussi le peuple. Et en Argentine, c'est la particularité, c'est que c'est le football est arrivé au même niveau que le drapeau. Et j'ai essayé d'expliquer pourquoi. Mmh. Pourquoi il y a autant de passion. Et donc ça, c'est aussi important de montrer ce côté-là aux téléspectateurs, à tous les passionnés de sport, mais pas que. Aussi, il y a l'aspect sociétal qui est important.
Oui. Vous, c'était peut-être moins sociétal et plus axé sur le sport, Diego, votre documentaire qui s'appelle donc La Bonne Étoile et qui suit les éléphants durant la dernière CAN.
Bah oui, moi j'ai suivi l'équipe, j'étais à l'intérieur de l'équipe en inside pendant toute la compétition, mais j'ai essayé quand même de faire quelques petits pas de côté pour prendre la température du public et des Ivoiriens qui aussi sont des passionnés de football et il y a une ferveur en Côte d'Ivoire et on l'a vu pour ceux qui étaient en Côte d'Ivoire à ce moment-là. C'était à chaque match de la Côte d'Ivoire, on passait par toutes les émotions, et donc j'ai essayé quand même de retranscrire un peu ça dans le film, en allant voir les gens avant le match contre le Mali à Bouaké, ou en allant voir le vendeur de journaux, les gens qui achetaient les journaux après la défaite contre la Guinée équatoriale, justement pour apporter pour sortir un petit peu de cette équipe, de ce huis clos au final,
d'avoir l'écho
de la population. Quand on se souvient des titres des journaux, l'humiliation des éléphants, le naufrage, la honte, voilà, c'est important d'en parler en sortant un peu du foot. Mais sinon, oui, la plupart du temps, le film dure 1h40 et je pense qu'on doit être 1h30 avec l'équipe nationale et les joueurs et le staff.
Ouais. Philippe Breteau, vous êtes plutôt l'objet de documentaires, hein. Vous voyez arriver les gens et les faire, notamment à Clairefontaine. Comment vous ressentez ? Est-ce que vous avez envie aussi d'être objet d'un documentaire, de finalement d'être suivi ?
C'est pas l'objet du documentaire, parce que là, comme d'abord, c'est d'abord un titre. Quand vous disiez le sport, là, quand j'entends les yeux dans les bleus, pour nous, Teachers for Life, qui veut dire apprendre à être, c'est déjà quelque chose qui est parlant pour nous.
Dans ce documentaire,
dans ce documentaire. Et pour moi, déjà, un documentaire sportif, c'est des images et du son. C'est-à-dire qu'il y a des images fortes, il y a des sons qui sont appropriés. Et après, on peut voir donc à l'intérieur, quand on va plus loin, des joies, comme vous l'évoquiez, ou alors des réflexions, voire des déceptions, des choses qui font que on peut interpeller. Et là, nous, on n'est pas l'objet. C'est en fait la chance qu'on a eue, plutôt l'opportunité, c'est d'avoir une comparaison avec d'autres écoles dans d'autres pays internationaux. Et nous, en France, de mettre en valeur le sport comme moyen éducatif et pas seulement... Voilà, nos internationaux, dont on est très fiers, hein, qu'ils réussissent comme ça. Mais après aussi, de voir comment on pouvait s'attacher aux enfants, à chaque personne, et donner... Après, pour finir de répondre à votre question, c'est les messages qu'on peut apporter après à l'intérieur qui sont très forts, comment ils sont amenés.
Oui, quand vous voyez évoluer les jeunes athlètes qui deviennent effectivement, notamment ceux que vous arrivez et continuez à suivre.
Alors, il y en a un qu'on suit beaucoup d'ailleurs.
Un certain Kylian Mbappé.
Qui est passé entre les mains de Philippe.
Oui, donc voilà, j'ai aussi l'opportunité d'entraîner Kylian, mais il y a d'autres garçons avec eux. Et quand on prend par exemple Youssouf Fofana, qu'on ne pensait pas du tout qu'il allait pouvoir réussir, qui n'avait même pas de club à la sortie de l'INF, et qui à la sortie donc finit international, et monte les marches du château, qui pour eux c'est mythique là-bas avec Clairefontaine. Donc c'est là où à l'intérieur on dit qu'il faut croire en tout le monde, et nous... On a l'opportunité par rapport à ce film de dégager des messages, et la fédération donc s'inscrit complètement dans ce message-là avec la DTN pour essayer donc de promouvoir et de se servir du football, parce que il y a un enfant sur cinq qui connaît le football dans sa vie, et qui donc ça fait beaucoup, et qui s'inscrivent grâce au football à devenir autonome, responsable, comme c'est vécu dans les autres pays là, et que ça lui sert après pour aller un petit peu plus loin.
Alors, ce document...
C'est une belle maison, Clairefontaine.
elle est jolie, elle est accueillante. Et
ouais, quand je dis belle maison, je parle pas de l'architecture, hein, évidemment. Ouais. Hein.
Il y a déjà eu un documentaire là-bas, non? Clairefontaine, ça me rappelle quelque chose.
Oui, oui.
Alors, justement, Stéphane Meunier, votre documentaire, c'est 1998, il est devenu très célèbre. On va en parler, on va parler de pourquoi
on
il
a
est
produit
devenu
aussi à la Clairefontaine une série documentaire à...
Oui, on en a aussi un petit extrait qu'on va entendre tout à l'heure. Mais cet extrait, alors on l'a monté, hein, et c'est un extrait, écoutez, des yeux dans les bleus.
Robert, tu s'assois à droite et à gauche. Pas de problème. Tu viens, provocation, tu es emmerdé, tu sais jouer au football. Là, muscle ton jeu. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenus parce que t'es trop gentil.
Alors, la muscler son jeu.
Heureusement que Robert n'est pas là.
Il vient demain, Robert.
Il vient demain,
il
donc,
vient demain
donc,
Robert, au festival.
Robert là, il fait la peau, là.
C'est parce que les enfants ont repris cette expression, c'est parce que c'est devenu une expression mythique. Alors j'imagine que quand vous la filmez, vous vous en rendez pas compte. Mais racontez-nous comment ça s'est passé à l'époque, parce que c'était la première fois qu'on faisait un documentaire comme ça. En plus, la France, personne n'imaginait qu'elle pourrait ou qu'elle réussirait à être championne du monde, mais c'était le pays hôte. Comment ça s'est passé, Stéphane Meunier, ce premier documentaire sportif, et pourquoi est-il devenu si une telle référence?
Bon, c'est compliqué de répondre en trois mots, hein, parce que c'est
non, mais vous pouvez en avoir cinq mots.
Ouais, voilà, mais ça me fait penser aux réalisateurs, c'est-à-dire c'est à eux que je vais m'adresser, en fait, puisque comment ça s'est monté? Ça s'est monté parce que c'était mon métier profondément. Moi, je faisais de l'immersion, mais je travaillais à l'international. Je faisais de l'immersion, j'ai travaillé en Afrique du Sud pendant l'apartheid pour filmer Soweto sous le manteau, avec une petite caméra déjà à l'époque. J'ai travaillé dans les territoires occupés en Cisjordanie de la même manière pour passer les barrages israéliens. J'ai travaillé, je dis toujours que c'est pas parce que j'étais dans le sport et c'est pas parce que je suis passé là par hasard. Nous, les réalisateurs, les gens qui filmons, on a cette profonde envie de construire quelque chose sur la durée. Comme dans le sport. C'est-à-dire, ça ne nous arrive pas de derrière le soleil un jour parce qu'on se dit, tiens, j'aime bien le foot, je vais faire un film. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe parce que on travaille notre matière, on travaille notre certitude, on fait nos gammes comme des pianistes pendant des années et des années et des années. Et que ça soit dans le sport ou ailleurs, c'est de cette manière-là qu'on va travailler, on va fabriquer cette certitude. Et avec cette certitude, on va rencontrer le sujet qu'on va devoir traiter. Donc en fait, c'est un métier et eux, c'est ce qu'ils font. Voilà, ils travaillent leur gamme, et alors ils sont beaucoup plus jeunes que moi, et puis ils vont faire un film, deux films, trois films, mais c'est leur grammaire, c'est à ça qu'ils pensent jour et nuit.
Et cette manière de filmer de l'intérieur comme ça, ça n'avait pas été fait à ce moment-là avec une équipe de foot.
Non,
et qui
avec
en
une
plus
équipe de foot,
arrive
non.
Jusqu'au bout. Mais justement, s'intéresser à une équipe de foot, parce qu'il y avait peut-être certaines réticences, peut-être certains a priori autour de vous, non?
Encore une fois, c'était ma grammaire, vu que je l'ai fait dans des conditions parfois extrêmement difficiles. Donc la difficulté du contexte n'est pas une difficulté. Il n'y avait personne pour me mettre en prison à cet endroit-là, à Clairefontaine. Voilà, on met personne en prison, ils sont très accueillants. Et les difficultés sont difficultés de management sportif. C'est-à-dire moi, Aimé, quand je l'ai rencontré, qui est quelqu'un d'extrêmement ouvert.
Et qui avait
une vision de tout ça. Lui, dans sa vision, il avait une place pour moi. Et en fait, on loue les yeux dans les bleus en disant, voilà, c'est formidable, t'as inventé un truc. Je dis, j'ai rien inventé, je me suis inscrit dans quelque chose qui a été organisé, créé, pensé par la Fédération Française de Foot, même si c'est pas eux qui ont fait le film, l'ADTN, Aimé Jacquet, et ensuite ses entraîneurs nationaux et l'équipe de France. Et dans tout ça, il y avait un guide qui s'appelle Aimé Jacquet, qui à un moment donné a dit, ça va être un événement extraordinaire qui va se dérouler en France. Et ces gars-là, il me parlait comme ça, il me disait, ils s'en rendent pas compte, ces gars-là. Il parlait des joueurs, il disait, ils vont vivre quelque chose qui va être extraordinaire dans la vie.
Il leur dit à un moment dans le film,
il me dit, et toi, t'es là pour qu'ils s'en rappellent. Donc lui, à la base, il fait pas du cinéma, mais il est généreux et il a une vision globale. Il veut un film de vacances, il veut un souvenir. Et moi, là, je rentre avec mon métier et je travaille beaucoup pour Canal. Je travaille énormément pour Canal. Donc, ça, sur de l'actualité, hein. Donc, ça s'emboîte bien. Mm-hmm. Voilà, c'est...
Philippe, on s'en souvient de ce documentaire, oui. Les yeux dans les bleus. Et,
évidemment.
Et on se dit, il y a des émules maintenant, on va dire. Peut-être, Diego, est-ce que vous aussi, j'imagine, quand vous avez dû faire ce documentaire avec les éléphants au mois de janvier, ça a été aussi dans le même esprit, pensé, écrit à la demande?
Mais en fait, quand j'écoute Stéphane, ça me parle parce que moi non plus, j'ai pas commencé par des documentaires de football ni de sport. Je suis journaliste généraliste, réalisateur généraliste. Et quand Canal+ est venu me proposer de faire un documentaire sur les éléphants, j'ai tout de suite accepté parce que j'habite en Côte d'Ivoire depuis plus de 6 ans et c'est un pays que j'aime beaucoup et auquel je suis attaché profondément. Et il y avait aussi cette aventure de vivre une canne à la maison et c'était quand même quelque chose d'exceptionnel que je pouvais absolument pas rater. Donc j'ai tout de suite accepté. J'ai eu la chance d'être un peu mise en condition. Toute l'année 2023, j'ai fait des reportages avec eux pour Canal+, lors des trêves internationales, qualifications pour la Coupe du Monde, les matchs amicaux, etc., pour me familiariser à l'équipe. Et après, arrivé la CAN, et là, je connaissais les joueurs, je connaissais le staff. J'étais accepté dans l'équipe parce que c'est un groupe, et pour entrer dans le groupe, c'est pas toujours évident, donc surtout quand on n'est pas ivoirien. Et donc, j'avais appris à apprivoiser petit à petit les joueurs, le coach, son staff. Et c'est pas Jean-Louis Gasset qui était l'entraîneur au début de la compétition qui me l'a dit, mais c'est Serge Aurier qui m'a dit: Diego, il faut que t'immortalises aussi tout ce qu'on est en train de faire pour qu'on s'en souvienne, parce que dans 20 ans on s'en souviendra plus. Et ça, il me l'a dit dès les premiers matchs, et voilà, c'est ce que je me suis attaché à faire dans ce documentaire.
Ça s'appelle La Bonne Étoile et c'est donc signé Thomas Diego Badia.
Le monde, il tombe sur la tête. Hein. 4-0, t'es éliminé. Tu sais même pas où te mettre.
Il y a perdre et perdre, quoi. Là, on a perdu avec la honte.
Nous sommes avec vous, les gars. C'est un naufrage et c'est une grande déception ce soir. Mais voilà, il y a encore un espoir. On va attendre les autres matchs.
Quand t'as pas ton destin en main, c'est pas vivable. T'es comme ça, tu dis, mais je veux rentrer chez toi. Ah mais non, en fait, il y a une chance. Ces 3 jours-là, c'était long, interminable.
On n'a pas fait ce qu'il fallait. Aujourd'hui, on n'a plus nos destins de nos mains. On va prier. On a une petite chance de se qualifier. Une petite chance, tu vois. C'est-à-dire, on arrive à se qualifier en tant que meilleur troisième. Après nous, il y avait le Ghana qui jouait. Le Ghana menait 2-0 à la 90e minute. Le match finit 2-2.
C'est un bon pour le frapper, la tête.
Encore sous le choc, mais on a cette bonne petite nouvelle qui fait que déjà sur les 4 matchs qui va rester derrière, t'as déjà un groupe où les résultats ils t'arrangent.
C'est ce qui change tout, ça change tout.
Ça change tout. Évidemment, la Côte d'Ivoire là est au fond du trou et va atteindre le Graal finalement et va gagner la coupe. Stéphane Meunier, vous vouliez dire quelque chose?
Oui, je veux dire quelque chose. Je veux dire que je peux rien dire.
Oui, c'est vrai.
Parce que moi, je suis président du jury. Alors oui. Moi, je suis un être humain, c'est-à-dire je vois des films, je m'enflamme, et là, je suis obligé de me taire. Non, mais donc je ne dirai rien. Voilà, je ne dirai rien. Mais j'ai vu le film. Évidemment, j'ai vu les deux films.
Stéphane ne sait pas qu'on l'a filmé tout au long du festival. Donc on sait sur quoi il a pleuré, à quelle minute, on sait tout.
On avait une caméra isolée sur lui. Et...
Non mais je reviens là-dessus parce que le football appartient aux footballeurs, ça c'est sûr. Mais tout ce qui est autour, les films du football ne sont pas qu'au monde du sport. C'est-à-dire, pour faire ces films-là, on peut venir de tout horizon. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui... films qui ont une écriture naturelle. Je parle d'écriture parce que le cinéma, ça s'écrit. Qui ont une écriture naturelle. À mon époque, pour avoir une caméra, fallait être fils d'archevêque. Mais aujourd'hui, en gros, enfin, c'est compliqué. Ou alors,
les premières bêta cam
coûtaient 300 000 francs.
Aujourd'hui, avec 2 000 euros, on peut avoir une.
Mais c'est ça. Voilà. Le matériel.
Aujourd'hui, il y a même des téléphones qui sont capables de filmer de manière incroyable avec des applis cinétiques là, qui peuvent finir sur un grand écran. Donc en fait, il y a plein de manières. Et en fait, ça va créer des vocations de filmage naturel. C'est-à-dire qu'il faut croire à son destin, filmer, raconter, prendre des gadins, être exigeant. Donc ça ne sont pas que les gens du sport qui peuvent faire ça. Et donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs profils.
Diego, une question, c'est que votre documentaire, si vous l'aviez écrit, comme l'explique Stéphane Meunier, en même temps, il aurait pu s'arrêter à ce moment-là du documentaire. Là, on est à peu près
serait-il sorti s'il avait été éliminé au premier tour?
Il n'y a pas de documentaire. Après, on pense que la Côte d'Ivoire est éliminée, tout le monde le pense. Et il y a eu mais cette bonne étoile qui les a repêchés.
Ça, c'est clair, c'est génial.
C'est incroyable. Ouais, c'est
un comme scénario. Dramaturgie.
Mais c'est vrai que moi, j'ai évidemment pas écrit le film à l'avance. C'est pas moi qui ai écrit
T'as
le scénario.
T'as pas écrit le scénario de la Cannes, non, ça, c'est sûr. Il faudrait être complètement fou pour écrire un scénario pareil.
Personne n'a réussi à écrire ce scénario.
Je l'aurais déposé avant. Et puis
mais tu l'as écrit. Il faut considérer que c'est une écriture.
Le film, c'est écrit.
Parce que t'as pas enfilé des perles.
Non. Le film, c'est écrit au fur et à mesure, des idées qui sont arrivées, des moments que j'essayais de capter.
Je me disais, quand on regarde ces documentaires, il y a aussi peut-être des personnages pour vous qui apparaissent. Serge Aurier, vous dites au départ, vous a dit ça, et c'est vrai que c'est le capitaine de l'équipe et tout. Mais en même temps, il y a peut-être d'autres joueurs qui vous paraissent tout d'un coup devant la caméra ou près de la caméra qui apparaissent.
C'est sûr
plus vendeur, comme on dit dans le métier.
C'est surtout qu'il y a des affinités qui se créent aussi, comme dans tout groupe humain. Et on va plus. Enfin, moi, il y a des joueurs avec qui je me suis le mieux entendu que d'autres. Et j'ai essayé quand même de filmer un peu tout le monde, évidemment, et pas de me focaliser sur ces joueurs avec qui je m'entendais le mieux. Mais il y a des gens qui s'exprimaient mieux face à la caméra, qui avaient plus d'appétence pour venir me parler aussi. Et donc, c'est avec eux que j'ai écrit au fur et à mesure de la Cannes le documentaire.
Philippe, et c'est nous, on était à la Cannes, on l'a suivi cette Cannes au fur et à mesure des matchs et de tout ce qui s'est passé. Et c'est ça aussi la magie du film, c'est-à-dire quand on regarde La Bonne Étoile, on a l'impression de recommencer au mois de janvier quand commence la compétition.
Oui, et puis
c'est ce que transmet aussi le documentaire.
Oui, parce que c'est un peu d'ailleurs le titre de notre festival, un autre regard sur le sport. C'est-à-dire qu'on dépasse tout d'un coup le résultat brut, les choses les plus simples, classiques, les stats, les analyses, le fait que le résultat immédiat du match, etc. On dépasse complètement et on rentre dans un autre monde qui est l'intérieur évidemment d'une équipe et puis l'intérieur des cerveaux des humains, tout ce qui est émotion, parce que finalement le sport c'est de l'émotion et le meilleur talent que vous puissiez avoir vous tous, enfin Stéphane, David et Diego, c'est que c'est ça, c'est de rendre les émotions, parce que le plus fort dans le sport c'est l'émotion et c'est ça qui nous anime tous en fait, qui nous passionne tous beaucoup plus que des résultats, ça c'est l'immédiat.
Et alors c'est sans doute le défi que vous vous êtes donné, David.
Oui, là pour le coup,
oui, David Komarek, parce que vous, alors il n'y a pas d'image de vestiaire, il n'y a pas d'image de joueur, vous êtes en Argentine, la Coupe du Monde se passe au Qatar, la chance que vous avez peut-être c'est que c'est l'été, parce que d'habitude les Coupes du Monde en Argentine c'est l'hiver.
Exactement.
Et là c'est vrai qu'il y avait un beau ciel bleu, hein, comme le drapeau, ça résonne bien, et surtout c'est beaucoup plus poétique, plus onirique votre film, plus sociologique aussi, on va en parler, ça s'appelle donc Nuestra Alma, et ce sont les Argentins au plus près durant cette épopée qui aurait pu s'arrêter même en finale, qui a failli s'arrêter en finale et qui ira jusqu'au bout.
Estos somos nosotros, el pueblo argentino. Y este momento, llevamos esperándolo desde hace 36 años. Preguntas por qué somos tan apasionados por el fútbol.
Voilà, c'est le début de ce documentaire et ça donne le ton, c'est-à-dire qu'il y a une certaine distance et en même temps on est plongé avec le peuple à chaque fois. Et vous vous êtes donné comme défi la passion du football dans le peuple argentin. Et je pense que c'est pas simple non plus parce que ça peut être des images répétitives, ça peut être quelque chose de toujours être face à un écran à fêter. Et en même temps, vous déployez un peu ce que c'est que d'être argentin, de ressentir es un sentimiento, comme ils disent, hein, ça se sent. Ce n'est pas un drapeau,
oui,
évidemment.
Le plus beau, ce qu'on m'a dit hier, c'est qu'on pensait que c'était une boîte de production argentine qui l'a fait. Donc ça, c'est, ça me va droit au cœur, parce que ça veut dire que mon message est passé. Mais avant tout, j'ai fait les yeux dans le football amateur. Et ça, c'est formateur. Merci à la Fédération française. Hein. Ça fait 7 ans que je travaille pour eux. Et ils m'ont laissé libre choix. Clairefontaine, je connais, c'est magnifique. Et la Fédération française m'a laissé vraiment libre choix de faire ce que je veux en Coupe de France. J'ai réalisé, produit le magazine Esprit Coupe. J'ai pris ma voiture tout seul, j'ai traversé la France, j'ai même pris 2 voitures, je crois, pendant 5 ans. Non, faire les kilomètres, les kilomètres, les kilomètres. la caméra dans le coffre et puis arrivé à un club amateur, j'ai suivi toutes les épopées de Coupe de France, que ce soit le GFA Rumi-Vallière, c'est Chambly, les Herbiers, mais c'est formateur parce que c'est, on rentre, là j'ai fait des immersions, des inside, et pour eux c'est le jour le plus important de leur vie. Et donc ça m'a construit et j'en me suis servi pour, j'avais pas accès aux joueurs professionnels, donc moi j'ai la passion en moi et je me suis dit, j'aime l'Argentine, j'aime l'Amérique du Sud et j'ai envie, sans parler la langue, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a là-bas. Et je vais me confronter, moi, mon sac à dos et ma caméra et toutes mes économies, j'ai mis toutes mes économies dedans. Et je suis arrivé à Buenos Aires avec ma petite équipe, d'ailleurs c'était pendant le match du Mexique. J'ai envoyé un message à ma femme pour dire « bon, ils vont être éliminés ». Et
compliqué.
Après, ça a été crescendo et j'avais une idée en tête, j'avais une trame de poésie, la musique surtout. J'ai mis deux mois à trouver ma chanteuse et je ne savais pas que là-bas, c'était les partiels, donc je l'ai perdu de vue. Et c'est l'anecdote, le clin d'œil, c'est que j'ai vu que je l'ai perdu de vue, Manu Lombardo, c'est que j'ai levé mon fixeur parce que je ne parlais pas la langue, je lui ai dit on va voir l'école contemporaine de musique à Buenos Aires qui est à 100 mètres de notre logement. Et il nous a accueillis parce qu'ils sont très accueillants, les Argentins. Et en sortant de son bureau, je tombe nez à nez avec Manu Lombardo. Alors, ceux qui connaissent Buenos Aires, c'est hyper grand, c'est gigantesque. Et ça, c'était. Et là, le directeur nous a dit bah, allez-y, on vous prête la salle d'enregistrement et j'ai écrit la chanson en une nuit. Voilà.
Ce qu'il y a de faux. Ah, c'est vous qui avez.
Oui, ouais, en une nuit. Ouais.
La chanson que chante la jeune fille.
Je me suis enfermé dans un bar à Buenos Aires et j'ai écrit la chanson une nuit et le lendemain on enregistrait.
Fallait faire un film sur lui aussi.
Non, mais c'est vrai.
Une nouvelle idée.
C'est les cranberries, ouais.
Vous qui êtes un acteur du monde du sport et donc en l'occurrence du football, est-ce que vous trouvez que c'est difficile, qu'il y a des documentaires, Philippe Breteau, où c'est difficile de faire passer le sentiment, l'émotion, ce que provoque aussi une performance dans un documentaire?
Ben là, ce que vous dites, là, c'est très fort. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit, là, quand j'écoute les collègues et les sujets là, qu'ils ont pris, c'est que ça crée des émotions sur le terrain et ça crée des émotions autour du terrain. Et là, nous, ce qu'on veut retransmettre là, dans le documentaire que l'on fait, c'est qu'on parle des joueurs qui sont au haut niveau. C'est-à-dire que là, c'est vraiment ceux qui ont réussi, qui sont dans les yeux dans les bleus, ou dans vos documentaires. Et nous, ce qu'on veut mettre l'accent, c'est sur les émotions que ça peut créer quand un enfant, lui, il rêve d'être ça. C'est-à-dire qu'ils rêvent tous d'être professionnels. Les jeunes garçons et les jeunes filles, ils rêvent d'être professionnels. Les jeunes qui arrivent à Clairefontaine, ils veulent être professionnels.
Et il y en a très peu qui le seront, bien sûr.
Et il y en a très peu qui le seront. Donc, on est très fiers de ce que Kylian Mbappé y fait, de ce que Jean-Pierre Papin a fait, Thierry Henry, Blaise Matuidi, là, les Nkoukou, les Thuram actuels, les Fofana, Mathis Tel qui arrive, d'autres. On est fiers de ça. Mais on sait qu'il y a d'autres enfants qui vont avoir une bonne réussite, mais d'autres, après, ça sera moins que ça. Et c'est là-dessus où on voudrait garder ce temps d'avance. Tout à l'heure, on a parlé d'Aimé Jacquet. C'est lui qui m'a fait venir pour prendre la direction du Pôle France féminin à Clairefontaine. Il m'a appelé pour prendre. Il était en avance, toujours, et voulait développer. Donc, là, il y a une vingtaine d'années, le football féminin encore. Mm-hmm. Regardez maintenant le football au féminin. Et là, j'avais des Louisa Nessib, des Amandine Henry. Donc, j'avais des très bonnes joueuses. Mais on savait très bien qu'elles n'allaient pas être professionnelles. Donc comment après, on les inscrit dans la vie, elles arrivent aussi à être autonomes, responsables, d'avoir pris de cette aguerrie, d'avoir pris de la confiance pour aller plus loin donc, dans leur existence. Donc le point essentiel, comme me le disait donc, Aimé donc, souvent, c'est de s'occuper toujours de la personne. Donc, je me suis évertué à essayer de trouver la clé de chaque personne pour l'aider. Et nous, on voudra aller plus loin. Et là, on a une direction générale qui a mis en place une commission d'engagement là, chez nous, à la Fédération. Parce qu'on voudrait garder, ce temps d'avance sportif. En face l'Argentine, on était là, quoi. Voilà. Donc, ça fait plaisir. On était là. Mais on voudrait garder aussi ce temps d'avance sur une société qui bouge énormément. Là, elle a bougé beaucoup. On n'entraînait pas les joueurs, nous, de l'INF, il y a 10 ans ou il y a 20 ans, comme on les entraîne maintenant ou comme on va les entraîner dans 10 ans. Et donc, on doit être des acteurs pour aider les jeunes garçons ou des jeunes filles à venir au foot. Même s'ils vont pas au niveau, ils seront contents de s'être inscrits dans ce moment-là. Et donc, on doit former des éducateurs et on doit aussi accompagner et expliquer aux parents qu'on est tous dans le même sens.
Et c'est ce que dit ce documentaire Apprendre à être qui fait le parallèle entre éducation et sport.
Je conclue là-dessus, c'est que, et là ça nous faisait plaisir que ça soit des personnes qui filment au niveau international, donc allemand, là, avec Catherine Hockel et Julien Friedgruber. Et là, donc, il nous apportait une opportunité de montrer autre chose et ce qu'on a aussi vraiment là et qu'on peut donner sur tout notre territoire. Donc ça, c'était une grosse force. Voilà.
Ce qui ressort aussi dans ces documentaires, peut-être à travers, c'est l'envie d'identification. Et là, par exemple, Stéphane Meunier, vous qui êtes président de ce jury. Alors évidemment, là, on parle des footballeurs et avec ces documentaires. Mais il y a, par exemple, je pense à François Gabart qui lui est sur un voilier. Et tout. Il y a aussi, c'est grâce à ces documentaires, une évasion, une envie de faire quelque chose un peu par procuration, qu'évidemment certains n'ont pas la chance de pouvoir faire, de faire un tour du monde en voilier ou quelque chose comme ça.
Oui, alors à travers les films en général, hein, on vit, oui. on est transporté. C'est le but, hein, d'être emmené dans un univers qui nous responsabilise, qui nous distrait, qui nous évade, et de traiter de sujets avec légèreté, avec gravité, des thèmes de société, Gabart, l'écologie. Dans le sport, il y a beaucoup de résilience parce qu'il faut rebondir. La vie d'un sportif, elle est engagée. On traite d'énormément de sujets, parité, diversité, hommes, femmes.
Ouais. Ce qui est amusant aussi, c'est l'identification. Dans le film, David Comeringue, il y a cette chanson qu'on va entendre et le personnage l'identifie alors qu'elle n'est pas du tout argentine. Life is Life, pas du tout une chanson argentine. Et en même temps, quelqu'un vous dit dans le film, c'est la chanson de Diego Maradona. Et il y a toute une chose autour de ça. Racontez-le, David, vous allez le raconter mieux que moi.
C'est la chanson que tous les Argentins, parce que Diego...
Diego, qui reste un là-bas.
Diego, mais Diego d'Argentine, c'est le fils du peuple. C'est vraiment le fils du peuple. Il arrive de tout en bas.
Je lui ai dit tout à l'heure, c'est bien de s'appeler Diego dans le monde du foot.
Un clin d'œil à la bonne étoile. Il arrive de tout en bas. Il sort du potrero. C'est du
bas de la société.
Champ. C'est un champ où il se joue des paris, un bonbon.
Ah oui.
Oui, ça peut finir en bagarre. Et d'un coup, il devient ramasseur de balles dans le stade d'Argentinos Junior à Buenos Aires. Et il devient le fils du peuple. Les Argentins adorent raconter les récits. Il devient le fils du peuple. Et la chanson Life is Life, c'est la chanson que tous les Argentins identifient Maradona.
Mais parce qu'il y a aussi cet entraînement dans le stade de Naples, Maradona est complètement facétieux avec le ballon. Il est filmé d'une façon, Philippe, elles sont extraordinaires ces images par rapport à ce rythme qui est mis en plus sur l'image.
Moi, j'ai eu l'occasion, oui, alors, pas avec cette musique parce que ça dépend des clubs où ils jouaient, etc.
Sûr.
Mais j'ai eu l'occasion de commenter quelques matchs de Maradona un peu sur sa fin. Et c'était hallucinant, c'est-à-dire qu'il avait des coéquipiers qui s'échauffaient et lui, pendant ce temps-là, il était devant la tribune et il faisait des jonglages, des facéties,
comme tout
des facéties complètes. C'était un personnage unique. Moi, je me rappelle avoir été à Naples la veille d'un Naples-Milan décisif pour le titre. Il avait fait tout l'entraînement en dehors de ses coéquipiers, où il faisait des coups francs, des machins, et tout le public était massé là où était Maradona, et tous les autres joueurs s'occupaient de l'autre côté. La veille d'un Naples-Milan...
Ils avaient gagné.
Ils avaient perdu. Comme quoi, c'est pas comme ça qu'il faut se préparer. Je m'en doutais.
Comme quoi, même au football, il faut peut-être. Il y a des règles à respecter quand même.
Philippe,
oui, non, juste aller un petit peu plus loin dans ce qu'ils mettent, parce que ce qu'ils mettent en avant, surtout le premier mot, c'est la passion. Et c'est ce mot-là tout de suite qu'il faut aller identifier chez les personnes. Pour vous donner donc un exemple, à l'INF de Clairefontaine ou au Pôle France féminin. On cherche d'abord à identifier les points forts. On ne va pas se battre pendant des années sur des facteurs limitants pour gagner peu. On va passer énormément de temps. On cherche à faire prendre conscience aux jeunes quels sont leurs points forts sur le terrain et en dehors du terrain. Mm-hmm. De telle façon qu'ils puissent s'exprimer au maximum sur ça. Si ça peut les emmener très très haut, on en sera heureux. Si ça ne les emmène pas, au moins ils auront essayé de travailler là-dessus. Et ça donne une confiance qui est très forte, qui est formidable. Et les gens se découvrent et ils découvrent des possibilités qu'ils peuvent. Et nous, on est simplement des guides, des accompagnants pour essayer de les pousser à utiliser ces points forts au maximum. Et il y en a, ça les emmène loin.
Il y en a peut-être qui font des documentaires sportifs.
Ce qui n'est pas...
Non, mais on n'est pas là par hasard. C'est-à-dire que quelqu'un qui est supporter, par exemple, que ce soit où, les Côtes d'Ivoire, en Argentine, en France, là, comme on a fait là, avec les yeux dans les bleus, quand on voit jouer l'autre, on se voit jouer comme on a pensé, comme on a été. Mmh. Et je crois qu'après, dans les métiers qu'on fait et ce qu'on transmet, bah, c'est de l'énergie qu'on avait et on l'a simplement orientée ailleurs pour aller la donner, quoi. Comme
c'est
vous l'avez
fait. Mais le sport a cette valeur-là. C'est-à-dire que c'est essentiel. Mmh. Moi, je trouve ça formidable de dire qu'on cherche à mettre en valeur les points forts. Puisque ça n'est pas, malheureusement, c'est pas toujours possible à l'école, même s'il y a des encadrants à l'école qui cherchent malgré tout ça. Mais on a tous un souvenir, peut mieux faire. Voilà.
Ouais, nous dit, ça.
En tout cas, comment les sportifs objets des documentaires peuvent recevoir ou vivre cette expérience? Ici, il y a Laura Flessel, qui est la marraine de la manifestation, mais qui est surtout un immense championne d'escrime, quintuple médaillée olympique et la plus grande championne d'escrime française, surnommée La Guêpe. On lui a posé la question, elle, qui a été objet de plusieurs documentaires.
La première chose, c'est d'entrer dans un champ de confiance. Une fois que, quelque part, le cadre est posé, on épouse le micro, on épouse la caméra et on fait avec. Alors, on vient timidement, des fois, le caméraman vient timidement parce qu'il n'a pas envie de, quelque part, perturber une organisation, mais j'ai envie de vous dire, c'est comme dans le sport, une fois qu'on accepte, on fait avec. Et surtout lorsqu'on a cette ambition de montrer que finalement, c'est pas si facile que ça, la vie d'être un champion, eh bien, on fait avec et ça se passe bien. Et à aucun moment, je n'étais gênée. Si c'est trop intrusif, on dit juste, est-ce qu'on peut réfléchir ou on peut recommencer ? Parce qu'on se sent pas bien et c'est autorisé. Et c'est en ça que j'ai toujours aimé participer à ces documentaires.
Ces documentaires, ça doit établir aussi une relation particulière, non, avec vos personnages, c'est-à-dire même si vous les suivez, que ça évolue au bout d'un moment, est-ce que vous vous sentez peut-être redevable parfois de pas mettre certaines scènes ou de pas certaines paroles? Est-ce que on n'est pas complètement objectif, Stéphane Meunier?
Bah, évidemment, on n'est pas objectif, on est subjectif par essence. Enfin, voilà. Alors après, redevable. On fait avec notre subjectivité, notre regard. On travaille beaucoup pour travailler nos points forts.
Faut déjà les identifier.
Voilà, on essaye de pas être trop pourri déjà, et on donne beaucoup. Donc en fait, après, on aime ce qu'on fait ou on n'aime pas ce qu'on fait, mais il y a pas, et on fait des choix. Et il faut avoir de la personnalité pour faire ce qu'ils font. Il faut vouloir exister, il faut vouloir dire au monde qu'on a quelque chose à dire, enfin, à montrer, à démontrer. Enfin, donc en fait, c'est pas de la communication. On fait pas des films. Ces gens-là ne font pas des films institutionnels, même s'ils peuvent se mettre au service d'une idée, mais ils ont une vision de ce qu'ils veulent faire.
Et alors justement, vous, David et Diego, par exemple, ces nouveaux documentaires qu'on voit sur les plateformes, comme on dit, c'est-à-dire ou Netflix, ou Prime, ou Disney, et qui font des documentaires sur des footballeurs, je pense qu'il y a eu celui de David Beckham, il y a eu celui sur Cristiano Ronaldo, on se souvient de Paul Pogba, il y en a en préparation sur Kylian Mbappé. Est-ce que c'est pas en train de transformer peut-être aussi le documentaire sportif?
Oui, j'en regarde beaucoup. Après, c'est pas forcément ce qui m'attire. Parce que je pense qu'il y a des barrières. C'est l'image aussi. On arrive aussi dans le contenu de marque aussi.
C'est ça le problème. Eux s'en servent aussi maintenant avec la présence des réseaux sociaux.
Ils sont souvent coproducteurs. Les acteurs du sport deviennent souvent des entreprises.
Encore une fois, c'est le talent qui gagne.
Oui.
C'est pas si je le compare avec le foot, c'est pas l'équipement. Hein. On peut marketer tout ce qu'on veut. Ensuite, c'est le talent qui gagne. C'est-à-dire que c'est la sincérité, c'est le talent de ceux qui fabriquent, le talent de ceux qu'on filme. À partir du moment où on commence à fabriquer un produit et qu'il est organisé par le talent lui-même, honnêtement, ça marche pas très fort. Hein.
Mmh. Oui. Donc, parce que le documentaire sportif, ça...
Quand je dis le talent, c'est le... Pardon, hein, quand je dis le talent lui-même, c'est le sujet du film.
Oui. Diego ?
Moi, j'ai eu la chance d'avoir carte blanche sur tout le film. La Fédération Ivoirienne de Football n'a pas demandé à regarder les images avant et on a pu diffuser tel quel. Donc ça, c'était une vraie chance parce que je sais qu'aujourd'hui, comme tu l'as souligné, c'est... Les personnages des films, peut-être Beckham, les équipes demandent à regarder le film avant la diffusion et peuvent avoir envie de couper certains éléments qui n'iraient pas dans leur sens ou dans le sens du message qu'ils ont envie de faire passer. Moi, j'ai pas eu ce souci.
Moi, j'ai une anecdote là-dessus, quand même, sur Les Yeux dans les Bleus, pour vous faire marrer quand même.
Bah oui.
C'est parce que moi, on m'a demandé de couper un plan. Mais en vérité, j'ai été totalement libre. Et j'ai présenté le film le 2 jours après la Coupe du Monde, après la finale, 2 jours le 14 juillet au matin, avant que l'équipe parte sur les Champs-Élysées. J'ai montré le film à Aimé, au staff de l'équipe de France. Et là, les mecs ont dit, mais t'es rentré dans les chambres. ils ont découvert que j'étais rentré dans les chambres parce que génial, eux ne sont jamais rentrés dans les chambres. Il y a pas, on mange pas à la même table, on respecte on respecte quelques
scénarios. Je jouerai un joker.
Voilà.
C'est ce qui pourquoi tu veux répondre.
Et donc et Aimé m'a demandé d'enlever un plan parce qu'il y avait un plan de Zidane qui lisait l'équipe. Dans l'avion.
Ah, génial.
Et donc, il voulait y a que ça qu'il voulait pas voir.
Il voulait pas voir l'équipe.
Il voulait pas voir l'équipe dans le film.
Sa mésentente hein, avec le journal L'Équipe à l'époque.
Ce que je veux rebondir, c'est sur le plan. C'est-à-dire que là, et c'est très bien, il parle d'une anecdote parce qu'il y a des images, des fois, voilà, qui nous aussi, on est obligé de faire des choix. Mais par contre, comme un beau film, comme un très beau film, un bon documentaire sportif, c'est 1, 2, 3 images clés ou 2 ou 3 messages forts que l'on retient, qui sont là et qui impactent. Et c'est ça qui vont faire retenir donc les choses. Et je prends moi j'ai appris quelque chose en faisant ce film documentaire et c'est une richesse avec d'autres personnes qui sont dans d'autres pays. Quand sur un banc on est assis en train de parler avec un jeune et qu'une jeune dame psychopédagogue scandinave dit après les mêmes choses pour trouver la clé de chaque personne et que à des milliers de kilomètres on pense la même chose, on dit la même chose et on a ces mêmes valeurs, là ça te renforce, tu dis oui, ben voilà, je suis dans la bonne direction. Et c'est ça sur ces images fortes. Et je crois que la richesse que vous avez là à nous faire voir tous ces documentaires sportifs et à les continuer à les mettre en valeur comme vous le faites, c'est énorme parce que ça va pas s'arrêter. Le sport il ne va pas s'arrêter. Je vois juste pour revenir sur la Coupe du Monde là, c'est pour ça que apprenons à être, ça va aller plus loin. Maintenant, et nous on travaille là-dessus à la Fédé, vous pouvez pas savoir les datas, on connaît tout sur l'adversaire, on connaît tout sur ce qu'il va faire, ce qui va se passer. Et à la fin, il y a combien de buts ? Si, c'est phénoménal parce que c'est que des hommes qui jouent à la sortie. Oui. On est d'accord ?
Philippe, à vous de conclure sur ce beau festival qui en est à sa première édition.
C'est la première édition,
et
espère.
Et on entrevoit déjà qu'il pourrait y avoir autre chose.
Je sens qu'il y a une... Déjà, je suis ravi d'avoir participé à cette émission et d'avoir rassemblé toutes ces personnes-là. Ça veut dire que ça, c'est déjà une première satisfaction pour ce festival de réunir tous ces gens qui sont venus présenter leurs films. Évidemment, Stéphane Meunier, qui lui est présenté, enfin, qui était président du jury. Et rien que ça, c'est déjà un succès. Et bon, visiblement,
il y a des choses à dire.
Visiblement, les professionnels sont ravis. Ils participent énormément aux tables rondes. Ils vont voir évidemment les films également. Et du coup, on peut esquisser qu'il y aura certainement d'autres Deauville Sport Doc Festival. J'en ai la certitude, car je pense qu'on a vraiment touché un secteur qui était un peu en manque et qui a besoin de s'exprimer.
Le sport en images, le sport grâce aux belles images que vous nous avez offertes durant ce festival. Merci beaucoup messieurs d'avoir participé à ce Radio Foot International.
Merci à vous.
Merci c'est beaucoup. Le clap de fin, mais on donne rendez-vous évidemment à tous nos auditeurs demain dans Radio Foot International, le Café des Sports. Et n'oubliez pas surtout vos cartons vidéo qu'on attend déjà pour l'émission du vendredi. Merci à tous, à demain.
Dentro il buio se ne va, ti ritrovi a testa in giù, perché hai dato sempre tanto e adesso non ottieni più.